Et à tous, alors on termine juste un petit peu la mise en place. Il y a encore des gens qui prennent leurs billets. Et dès que nous serons au complet, nous débuterons donc ce premier café philo de l'année. Si vous le désirez, il y a deux places ici, juste là, si ça vous dit. Voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent à ce café philo du 14 janvier, le premier de l'année. Et pour débuter, je vais laisser la parole à notre présidente Marie-France Canot.
Alors, je veux d'abord, bien entendu, et au nom de toute l'équipe de Philomania, de tous les bénévoles qui travaillent pour que ces cafés philo puissent exister, vous souhaitez une excellente année 2025. Alors, pour Philomania, c'est une année un petit peu particulière parce que c'est notre 10e anniversaire et on entend le fêter dignement. Et on a commencé. Je ne sais pas si vous avez pris notre nouveau flyer. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le en partant. Parce que non seulement il va vous donner les événements prévus cette année, les cafés philo et les conférences, mais il va vous donner l'adresse de notre site internet, dont on est très fiers. On l'a lancé le 2 janvier, c'est un petit peu notre cadeau de début d'année. Mais vous y trouvez bien entendu le programme, des détails sur les conférences qu'on organise. Et surtout, vous allez y retrouver les enregistrements de l'immense majorité des cafés philo depuis le lancement de Philomania. Et on avait au tout début, on n'avait pas d'enregistreur, donc on faisait des synthèses écrites. Et les synthèses écrites ont même été transformées grâce à l'intelligence artificielle, on est moderne, et Philomania, en documents sonores. Et je pense que la navigation sur le site est très facile, donc c'est une mise à disposition d'un fonds documentaire, je pense, très intéressant pour tous. Et vous pouvez aussi, par le biais du site, nous contacter très facilement. Vous savez qu'on est très preneur à Philomania des suggestions du public, donc n'hésitez surtout pas à nous écrire. Alors, il y a deux choses autrement que je voudrais vous dire. C'est ce soir, par exemple, on a été tous très angoissés parce qu'on a des malades. On a plusieurs bénévoles qui étaient au fond de leur lit. Et du coup, on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais que notre équipe était un petit peu juste. Alors, si vous appréciez Philomania et si vous avez un petit peu de temps libre, si vous êtes prêt à venir un petit peu plus tôt les jours de Café Philo pour nous donner un coup de main, pour mettre les chaises en place, pour participer à la caisse, pour préparer le buffet, ben on serait ravis d'avoir un petit peu de renfort. Et puis, on ne sait pas encore ce que vont être les subventions cette année, mais on a là aussi quelques petites inquiétudes parce que je pense que vous avez suivi l'actualité et les restrictions qui vont s'imposer aux collectivités, qui risquent fort de se répercuter sur les associations. Donc on lance aussi un appel à dons. Alors ça peut être très simple, hein, quand vous venez, au lieu de demander qu'on vous rende un euro sur le billet de 5, vous vous laissez un euro de plus, c'est toujours bon à prendre. Ou vous pouvez, par le site, il y a un bouton spécial, faire un don via Hello Asso qui vient aider l'association. Voilà. Donc, si vous pouvez nous aider, on vous en sera très reconnaissant, soit avec un petit peu de temps, soit avec un don, si modeste soit-il. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laurence pour le premier café philo de l'année.
Merci beaucoup, Marie-France. Alors, je vais commencer en rappelant la manière par laquelle nous fonctionnons. Le Café Philo vous appartient, ce qui veut dire que c'est le public de Philomania qui détermine le thème ou le sujet qui sera abordé ce soir. Vous avez donc toute possibilité en ce début de séance pour proposer les sujets que vous désireriez voir traités. Nous avons une secrétaire qui prendra donc sous la dictée vos propositions, et ensuite nous passerons en vote, et le sujet qui aura obtenu le plus de voix sera le sujet traité. Si jamais nous avons des sujets ex aequo, on recommencera le vote, sachant que la première fois vous pouvez voter autant de fois que vous le désirez pour autant de sujets que vous souhaitez. La seconde fois par contre, votre voix sera unique afin de départager les sujets. Ce qui veut dire que maintenant, la parole est à vous. Nous allons faire passer parmi vous les micros. C'est la règle qui est la nôtre. Il vous suffit juste de lever la main pour prendre la parole. Et on circulera parmi vous avec les micros pour vous les donner et vous laisser la parole. Voilà. Donc, si vous avez des sujets, n'hésitez pas.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous donne mon sujet donc.
Oui.
L'amour rend-il heureux ?
D'accord. L'amour rend-il heureux ?
Bonjour. J'aimerais savoir comment garder espoir dans un monde qui, des fois, perd son humanité.
D'accord. Comment garder espoir dans un monde qui perd son humanité ? Comment garder espoir dans un monde qui perd son humanité ? Oui.
L'homme doit-il souffrir ? Et, ou alors, la souffrance a-t-elle un sens ?
D'accord. Soit l'un, soit l'autre. Plutôt le second. Donc, la souffrance a-t-elle un sens ? D'accord. La souffrance a-t-elle un sens ?
Le capitalisme nuit-il à la démocratie ?
Le capitalisme nuit-il à la démocratie ? Oui.
Comment, alors ça rejoint un petit peu une question qui a été posée, comment vivre dans un monde saturé d'informations négatives ?
D'accord. Donc, comment vivre dans un monde saturé d'informations négatives ?
Une question.
J'ai pas fini.
Comment vivre dans un monde saturé d'informations négatives ?
Saturé d'informations négatives.
C'est bon.
Une question empruntée à un journal satirique. Peut-on rire de tout ?
D'accord. Peut-on rire de tout ?
On dit que l'histoire se répète, mais pourquoi elle ne sert pas, puisqu'elle se répète, pourquoi elle ne sert pas des leçons aux hommes ?
D'accord. Donc, puisque l'histoire se répète, pourquoi n'en tire-t-on pas des leçons ?
Oui,
voilà. Ouais. Donc, puisque l'histoire se répète, pourquoi n'en tire-t-on pas des leçons ? Donc, voilà, c'est bon, oui.
Il y a un micro qui est arrivé ici avant, désolé. Il y a une question qui m'a fait penser à une autre question que je vais poser, du coup, elle n'est pas très bien formulée, mais est-ce que tout subit l'usure du temps ? Je ne sais pas comment on pourrait dire les choses. Évidemment, tout subit l'usure du temps, mais...
Est-ce que tout subit l'usure du temps ? C'est le tout qui importe, là.
Oui, et puis... Ouais. C'est pas forcément négatif, mais est-ce qu'on peut en tirer des bénéfices ? Comment on peut vivre ça ?
D'accord.
Au sens très large.
Voilà. Est-ce que tout subit l'usure de temps ? et comment peut-on vivre ça?
Oui.
Peut-on vivre sans, sans...
Comment peut-on vivre ça?
Ça, oui,
ça.
Oui, simplement, moi j'aimerais savoir si la philosophie peut jouer réellement un rôle en politique.
D'accord. La philosophie peut-elle jouer un rôle en politique? D'autres sujets? Oui, voilà. On va...
Donc la zézétique est-elle une perversion de la méthode scientifique?
D'accord, donc la zézétique est-elle une perversion de la méthode scientifique? Ah, faudra définir.
Oui.
La zézétique est-elle une perversion de la méthode scientifique? Alors peut-être pour que chacun puisse voter en toute connaissance de cause, donner une petite définition de la zézétique. Alors, on vous redonne le micro. Voilà.
En fait, il s'agit de l'art du doute, quelque part. C'est en fait le fait de tout mettre en doute. En fait, il y a une association française de zézétique qui collecte en fait un tas d'informations sur bah oui, mais tel truc n'est pas vrai, tel truc n'est pas vrai. Enfin, bon, c'est quelque chose de relativement constitué.
D'accord. Donc, mise en doute des informations. D'accord. Donc, est-ce une perversion de la méthode scientifique? Ça nous
ça
amène.
Fait 10, hein.
Ça fait 10 oui. Sujets. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, je vous propose de laisser la parole à notre secrétaire pour qu'elle nous rappelle les différents sujets.
Non, c'est bon. Voilà. Donc, sujet 1, l'amour rend-il heureux? 2, comment garder espoir dans un monde qui perd son humanité? 3. La souffrance a-t-elle un sens? 4. Le capitalisme nuit-il à la démocratie? 5. Comment vivre dans un monde saturé d'informations négatives? 6. Peut-on rire de tout? 7. Puisque l'histoire se répète, pourquoi n'en tire-t-on pas des leçons? 8. Est-ce que tout subit l'usure du temps et comment peut-on vivre ça? 9. La philosophie peut-elle jouer un rôle en politique? Et 10. La zézétique est-elle une perversion de la méthode scientifique?
Alors, premier sujet.
Premier sujet, donc, l'amour rend-il heureux?
L'amour rend-il heureux? Alors, qui souhaiterait... voter pour ce sujet ce soir? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
34.
Oui,
je n'avais pas dit 34.
Deuxième sujet.
Alors, comment garder espoir dans un monde qui perd son humanité?
Comment garder espoir dans un monde qui perd son humanité? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
Sujet numéro 3.
La souffrance a-t-elle un sens ?
La souffrance a-t-elle un sens ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sujet numéro 4.
Le capitalisme nuit-il à la démocratie ?
Le capitalisme nuit-il à la démocratie ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Comment vivre dans un monde saturé d'informations négatives ?
Comment vivre dans un monde saturé d'informations négatives ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12.
Peut-on rire de tout ?
Peut-on rire de tout ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Puisque l'histoire se répète, pourquoi n'en tire-t-on pas des leçons ?
Puisque l'histoire se répète, pourquoi n'en tire-t-on pas de leçons ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Est-ce que tout subit l'usure du temps et comment peut-on vivre ça ?
L'usure du temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
La philosophie peut-elle jouer un rôle en politique ?
La philosophie peut-elle jouer un rôle en politique ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
La zézétique est-elle une perversion de la méthode scientifique ?
La zézétique est-elle une perversion de la méthode scientifique ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ce qui fait qu'on a un sujet à 43.
Oui.
Qui est ?
Comment garder espoir dans un monde qui perd son humanité ?
Voilà. Alors, c'est mademoiselle qui l'a proposé. Est-ce que vous pouvez nous en donner la raison déjà ou nous en dire quelques mots ?
Alors, bonjour à tous. J'ai pensé à ce sujet parce qu'en tant que jeunes qui sont très exposés, surtout sur les réseaux sociaux, aux informations et à l'actualité, ça peut être très... beaucoup d'informations et comme l'a dit une autre personne, beaucoup d'informations négatives qui nous parviennent, qui nous touchent directement, surtout quand ça parle de droits humains, quand ça parle de femmes en Afghanistan, quand ça parle du peuple syrien, etc. Enfin, il y a malheureusement énormément d'exemples et du coup, c'est des fois déstabilisant de se savoir impuissant, de savoir comment réagir à ça et comment... ne pas perdre espoir, quoi, ne pas essayer de se dire que c'est foutu et que l'homme n'a plus d'humanité, etc. Voilà. J'attends vos réponses.
Comment ne pas perdre espoir ? Oui.
Merci. En fait, j'aurais tendance à aborder cette question justement en rebondissant directement, en disant le simple fait de la poser n'est-elle pas déjà un signe qu'il y a encore de l'espoir ? Parce qu'on est justement en capacité de se dire il y a quelque chose à faire, y a-t-il quelque chose à faire ? Et dans ce cas, c'est déjà une première prise de conscience. Ça me rappelle une réplique d'un film, on va dire un film à succès, mais qui disait « Nulle cause n'est perdue s'il y a encore un pauvre fou pour se battre pour elle ». Et donc, quelque part, c'est pour ça que je me dis, si déjà on arrive à se poser la question de savoir s'il reste de l'espoir, en fait, on y a peut-être même déjà répondu. Peut-être est-ce un espoir vain, un espoir fou, mais en tout cas, il existe et on peut le communiquer.
Peut-on penser, alors, aux leçons de l'histoire qui vont nous ramener à une réflexion sur les événements, ceux qui nous concernent et nous bouleversent actuellement, ceux qui ont impressionné nos civilisations jusqu'à présent, et pourtant nous sommes toujours là, de plus en plus nombreux, et de plus en plus nombreux à essayer d'y penser.
Alors, c'est vrai que comment garder l'espoir, hein, la notion d'espoir est importante, quoi. Est-ce qu'effectivement elle est fondée ? Est-ce qu'elle a besoin d'être fondée pour exister ? Donc, quel est le rapport entre espoir et croyance ? Est-ce qu'on tire des leçons de l'histoire qui pourraient justement nous permettre de garder espoir ? Ce qui voudrait dire que l'histoire n'a pas été qu'une suite d'humanité. Oui ?
Je suis né en 1938. Vous imaginez le nombre de dictateurs qu'il y avait ? Staline, Franco, et j'en passe, et des meilleurs. Oui, et des pires, oui. J'ai vu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vu la guerre d'Algérie, j'ai vu la guerre d'Indochine, j'ai vu la décolonisation. Je ne suis pas sûr que... Je suis fils d'immigrés, j'ai subi... mon père était italien, il a fui le fascisme. Je ne suis pas sûr que ce soit pire qu'à l'époque de mon père. Je trouve qu'on a progressé globalement. Les femmes se sont émancipées. Quand je suis né, ma mère votait pas. Elle a voté plus tard. Et elle n'avait pas le droit d'avoir un compte personnel à la banque. Donc je trouve que ça a progressé. Alors que ce soit angoissant qu'il y ait... D'accord, mais je crois que si on va... Enfin, je suis quand même pas un vieux crouton. J'ai vécu ça et je trouve qu'on peut garder l'espoir de ce côté-là.
L'espoir reposerait sur l'idée de progrès, en fait.
D'évolution, peut-être, plutôt que de progrès, mais d'évolution.
Oui, c'est ici.
Pardon.
Oui, si. Moi, je me posais la question de... j'ai perdu le fil de... En attendant, j'ai perdu le fil de mon idée. Il faut que je la retrouve. La question que je me posais, ça revient un petit peu à la question que j'avais posée tout à l'heure. C'est qu'en fait, on a peut-être une perception d'avoir moins d'humanité parce qu'on est tellement saturé de nouvelles, d'informations, peut-être beaucoup plus que n'étaient nos parents, nos ancêtres, etc., même s'ils ont vécu dans des situations souvent aussi difficiles qu'aujourd'hui. Je crois que cette impression d'inhumanité, c'est l'avalanche peut-être de tout ce qu'on reçoit comme image, comme information. Là, on parle de Gaza, on peut parler de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et on est saturé de toutes ces nouvelles qui nous donnent l'impression qu'on est dans un monde complètement inhumain. Mais est-ce que c'est différent d'avant? Peut-être pas. Mais c'est peut-être une perception qu'on a du fait de la médiatisation et de cette infobésité, comme on a tendance à dire aujourd'hui.
Oui. Mmh.
Oui. Je voulais dire.
Oui.
Pardon. Mmh. Ce que je voulais dire, c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est en effet que peut-être le fait d'être quelque part mieux informé, plus informé, et donc forcément dans le lot, il y a beaucoup d'informations négatives. Donne justement ce sentiment, pose la question de l'espoir que ça aille mieux, j'imagine. Et pour autant, la question est effectivement de savoir si on se dirige vers quelque chose qui peut ne pas être plus inhumain. Et si aussi, à titre personnel, je pense que ce qui est désespérant, c'est peut-être de savoir parfois ou de penser qu'on est impuissant face à ça, quoi. Je pense que ça fait partie de l'espoir. Si on a l'espoir de pouvoir y contribuer, de contribuer à un monde plus humain, donc moins déshumanisé, on a peut-être... Ça peut aider à garder espoir. Et le fait, surtout, on peut aussi comparer à la situation où on baisse les bras et où on ne fait rien, et qui, comme ça, je dirais à vue de nez, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais je me dis que ça serait pire. Voilà.
Moi, je voulais parler par rapport de garder espoir dans un monde. Je veux dire, tout dépend, enfin, quel réseau on a de vouloir vivre, de vouloir continuer à vivre. Et ces réseaux-là qui peuvent aussi continuer, donner l'espoir d'une vie autre. Voilà, moi, je pense à mes parents qui ont vécu deux guerres et ils ont eu plusieurs enfants. Et je pense que d'avoir des raisons de vivre avec les enfants qu'ils ont eus et de ce qu'ils avaient qui représentait pour eux quelque chose d'important, ça leur a donné l'envie de vivre, des raisons de vivre. Et donc, c'est quelles raisons de vivre avons-nous pour continuer à avancer et ne pas tomber dans le désespoir. Sacré, en tout cas.
Voilà, bonsoir.
Bonsoir.
Donc moi, je me demande si chercher l'espoir, c'est pas donner du sens. Et moi, je pense que l'espoir, ça permet de garder du sens. Vous avez évoqué le problème de la croyance. Ouais, moi, je pense qu'il y a ces choses-là derrière. Mais rester lucide dans des situations comme ça, c'est très compliqué.
Mm-hmm. Oui, moi, ça fait depuis le début, on parle d'un monde humain. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un monde humain. Moi, j'ai une idée plutôt négative de la question, mais j'ai un tempérament négatif.
Oui, oui.
Il me semble que l'espoir traduit une attente. Et ce qui me pose question, c'est l'objet de cette attente. Et sommes-nous... Il me semble qu'il y a un sous-entendu là, dans tout ce que j'ai entendu sur l'attente, sur l'objet de cette attente. Or, sommes-nous effectivement d'accord sur l'objet de cette attente? Et je veux dire, l'espoir, ce serait peut-être que d'abord, on puisse... créer un ensemble pour définir un objet commun. Or, ce qui nous pose problème dans ce qu'on appelle le négatif, me semble-t-il, c'est que justement, l'objet n'est pas commun et est cause de conflit.
Donc l'espoir n'est-il pas espérer une chose précise, mais espérer qu'on puisse avancer ensemble.
Est-ce que cet objet commun serait de l'ordre du politique ou pas ?
Tout dépend du groupe concerné. Effectivement, il peut être de l'ordre politique, mais je veux dire, un groupe bénévole dans une action, ce groupe-là s'est défini un objet. Et il a espoir que son action porte ses fruits. Mais quand on parle de la situation actuelle, alors politique ou géopolitique, et effectivement, par exemple, bon, un lieu qui a pu donner espoir, par exemple, c'est l'ONU, ou la Société des Nations avant l'ONU, historiquement. Mais l'ONU. Or, on se rend compte que ce lieu ou de rencontre n'arrive pas à définir un commun à défendre. Or, l'espoir peut naître si, effectivement, on arrivait à pouvoir construire un objet commun.
Un objet commun et quelque chose en commun. L'action commune aussi.
Je ne vais pas définir l'objet.
Oui, donc là, à mon avis, ce qui est évident, c'est que c'est la philosophie qui doit s'en occuper. Moi, pour avoir lu quelques philosophes, ils ont déjà les réponses, notamment dans les années 60, avec la French Theory. Mais moi, pour l'instant, il y en a un qui me plaît à moi particulièrement, pour pratiquement tous les sujets. En ce qui me concerne, je dis bien, je ne fais pas de la pub pour lui, c'est Michel Onfray. Voilà, il a des réponses de philosophes aux politiques. Évidemment, personne ne va l'écouter. Moi, je n'arrête pas de me dire, je serai au gouvernement, je serai président, des types comme lui, je les écoute, mais sur le champ. Voilà, il n'y a pas que lui, il y a Attali, des gens comme ça. Donc, c'est la philosophie, tout ça, le commun à nous tous. Ainsi, je me faisais cette réflexion. Moi, ma mère est française, mon père est algérien. Bon, vous comprenez bien en ce moment avec tout ce que j'entends. Bon. Mais je me disais quand même plus du côté algérien actuellement. Mais je me dis, c'est les mêmes à l'envers. C'est-à-dire, l'autre, il fait, ah, c'est nous, gna 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 gna, vous êtes des colons, je ne sais pas quoi. En France, il y a des reproches. Je pense que la France a plutôt raison en ce moment. Mais enfin, on peut faire ça pour tous les pays. C'est les mêmes. Les Chinois et les Américains, mais quand on les écoute, je dirais dans leur bêtise, dans leur ignorance, et dans leur bêtise en vérité. Dans leur non-conscience, c'est les mêmes. C'est les mêmes, voilà. C'est moi, c'est pas toi, en fait, c'est les mêmes. Ils se disent différents, mais ils ont en commun, en tout cas, ce manque d'humanité. C'est évident. Là, il n'y a pas de frontière à la bêtise.
Ouais.
C'est là que je me dis que les philosophes de tout pays, en vérité, on ferait bien les écouter. Les sages en Inde, il y en a un que j'aime bien, c'est Sadhguru. Ici, les philosophes. Les rabbins, notamment, j'aime bien écouter les rabbins, moi, quand je ne suis pas juif, en Israël. Enfin, voilà, bon, des gens dont c'est le métier. Hein. Donc, soit le spirituel, soit la philosophie, évidemment, la psychanalyse. Tout est déjà là dans les livres. Hein. Mais, donc, c'est la politique, la philosophie, la politique, ça, c'est les Grecs qui ont compris ça, c'est à eux, dont c'est le travail, vous, par exemple, les deux profs, Non, mais si, le problème, c'est qu'on ne les entend pas, et ça tourne en boucle, c'est n'importe qui parle sur n'importe quel sujet dans les médias, alors qu'il n'y connaît absolument rien. Hein. Voilà.
Ouais, l'espoir de l'humanité, c'est pour moi, évidemment, le bonheur. Plus de souffrance. C'est de ça que tout le monde rêve. D'être absolument toujours heureux, délivré de la souffrance. C'est là que toute humanité espère. Oui, on me demande, ça veut dire quoi être heureux? Et c'est vrai que c'est un état illusoire d'être heureux. Mais bon, qui ici ne recherche pas le bonheur? C'est ça, tout humain recherche d'être délivré de la souffrance, le bonheur. Et quelque part, je pense qu'on a en nous la capacité à être heureux. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais tout être humain recherche le bonheur, mais a malheureusement toutes les raisons de ne pas l'atteindre. Par ignorance, par égoïsme, par avidité. Bref, il y a plus de raisons de ne pas être humain que d'être humain. Si on est vraiment humain, obligatoirement, on va vers le bonheur.
En fait, quand je repense à la question qui a été posée de départ et qui nous dit, qui suggère un monde qui perd son humanité. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a traduit cette perte d'humanité en parlant de situations politiques, géopolitiques un peu partout dans le monde, donc de conflits, en disant que c'est en cela que le monde perdrait son humanité. Mais en fait, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on voit qu'elle est jonchée de conflits sanglants, donc de morts, de destruction. Bien évidemment, pas que de ça. Heureusement que nous sommes là pour en parler. Il y a aussi de très belles choses. Mais en fait, on voit que ces conflits, ils ont toujours existé. Donc en fait, un monde, il semblerait qu'un monde humain ait toujours été un monde où il y a de la violence. Et par contre, il y a quelque chose qui n'existait peut-être pas, je pense qu'il n'existait pas dans les conflits d'antan et qui apparaît dans le monde d'aujourd'hui et qui peut aussi entrer dans la catégorie de la déshumanisation. C'est ce qui a amené le progrès technique. Et on voit aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, avec l'émergence des technologies, qui sont pour le coup des technologies déshumanisées, mais qui amènent des possibilités certaines intéressantes et d'autres inquiétantes. Et est-ce qu'on peut trouver dans ces technologies peut-être une source d'espoir, des solutions à des crises qui s'annoncent devant nous? Il y a beaucoup de discussions sur la crise climatique, la façon de la résoudre, et est-ce que ça pourrait résider dans la technologie? C'est certainement sujet à débat. Donc il y a peut-être un motif d'espoir dans cette technologie, mais il y a aussi, là aussi, des inquiétudes à trouver dans cette autre forme, on va dire, de déshumanisation de la société.
Oui, moi je me posais la question, quelle est la situation du départ, dans quelle situation le microcosme où on vit, les libertés qu'on a, et où est, à quel niveau de valeur on veut atteindre? C'est ça la question, parce que si on vit en France ou en Iran, par exemple en France on a des libertés, qu'en Iran on est exécuté pour parce qu'on a volé un poulet, quoi. Enfin, je veux dire, donc après il faudrait définir le niveau de départ, donc on part de la France actuelle, mais après il faut savoir, parce que l'espoir c'est on veut aller vers le haut, quoi, donc on veut on a une nivellation de valeur qu'on veut atteindre. Donc ça suppose, parce qu'on peut se dire l'Ukraine c'est loin, ça ne me concerne pas, le Gaza c'est loin, enfin ça ne me concerne pas, l'Algérie c'est gentil, mais c'est aussi loin, après la Californie c'est aussi loin, enfin. En France, on est heureux, quoi. Donc, si on fait abstraction de ça, je veux dire, on peut se dire, mais là, si on veut avoir la paix dans le monde, donc c'est vers où on veut atteindre, quoi. Enfin, je pense que c'est les deux pôles qu'il faut, parce que cette élévation, enfin l'espoir, c'est une transition. Enfin, il y a un mouvement, quoi, dans la pensée. Je sais pas.
Ouais.
Oui.
Désolé d'avance si j'explique mal ce que je vais expliquer, parce que je ne suis pas doué pour parler. Mais en fait, je vais un peu déconstruire ce que tout le monde a dit, mais en fait, moi, je vais chercher un peu plus loin et je vais aller savoir quelle est réellement la définition de l'humanité et déshumaniser la chose. Parce qu'en fait, quand on dit déshumaniser quelque chose, faire un acte inhumain, en fait, c'est dû à une définition que nous-mêmes humains avons donnée. Mais en fait, par exemple, si on fait une mauvaise action au vu d'une personne, une bonne action au vu d'une autre, déjà, c'est question de vision par rapport à certaines positions qu'on peut avoir, comme dans des relations ou dû à des situations tout autre qu'on peut avoir dans la vie. Mais en fait, chaque action que nous-mêmes on fait humain, bah, en fait, c'est nous, on est humain, on le fait. Donc, que ça soit mauvais ou pas mauvais, ça reste humain car c'est dans notre nature, en fait. Et on a été né comme ça, comme pour des animaux sauvages. On va dire qu'un loup va manger une brebis, bah, c'est animal, c'est sauvage et c'est naturel pour lui-même. Et ben, pour les humains, on va dire que c'est la même chose. Mais vu qu'on est conscient d'être conscient, on reste toujours des animaux sauvages et on est né comme chaque être vivant qu'il y a sur cette planète Terre. En fait, nous-mêmes, on a voulu donner une définition à des actes, nous-mêmes, pour peut-être, je dirais, nous rassurer sur des choses ou pour pouvoir y donner quelque chose, comme on dit, de positif ou négatif. Comme par exemple aussi pour les guerres, il y a des guerres où parfois on pense que c'est juste de le faire au point de vue du camp. Et à l'inverse, ça peut être en face des ennemis et eux-mêmes, les ennemis, pensent être des bonnes personnes et à l'inverse. Donc, et puis même aussi, en fait, ça fait des millions d'années que l'humain existe. Et nous, on peut vivre en notre moyenne 80 jusqu'à 100 ans et pouvoir en dire. L'humanité perd son humanité aujourd'hui. C'est compliqué de se dire ça parce que dans il y a 1000 ans, on ne savait même pas comment c'était aussi. Et malgré toutes les technologies qu'on a, on ne pourra jamais en tirer une vraie réponse 100%, d'être sûr de ce qu'il y a eu vraiment eu et être sûr de savoir est-ce qu'on a plus d'humanisation aujourd'hui comme la société donne sa signification ou est-ce qu'on l'a été plus ou moins en fait à ça. Ça se trouve, on l'est plus. Dû à la définition qu'on a donnée, comme on pourrait dire grâce aux réseaux sociaux, par exemple, c'est quelque chose de positif et d'humain qu'on pourrait faire, c'est quelqu'un, je sais pas, il s'est fait couper le bras dû à un accident, il en fait une vidéo sur Internet et il ouvre une cagnotte et plein de gens peuvent donner, et on pourrait y donner comme quelque chose de très humain, très empathique. Ou alors à l'inverse, où des gens, ils vont montrer leur succès sur Internet et beaucoup de gens pourraient être jaloux et essayer de descendre la personne. Donc, en fait, dans l'évolution, on a eu, grâce à la technologie aussi et tout ce qu'on a pu faire, il y a eu sur certaines choses, on a pu avancer sur le positif et d'autres reculer sur le négatif, comme bah, les deux exemples que je viens de donner. Enfin, c'est la question de dans l'espoir de quoi qu'on a, parce que on peut tous avoir un espoir en disant de l'humanisation. Mais après, chacun peut avoir sa propre définition de qu'est-ce que c'est être humain, en fait. Parce qu'on peut faire des actions qui peuvent être humaines pour nous et pour être inhumain envers d'autres personnes. Et ces questions-là, enfin, pour moi, c'est difficile d'y trouver une réponse. Parce que chacun l'aura dû à son avis personnel, sa définition personnelle, et dû à ce qu'il a pu voir par rapport à sa position elle-même. Voilà.
Merci.
Alors, je vais me permettre de rebondir sur ce qui a été dit un petit peu avant. Moi, je vais vous contredire un petit peu. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé d'une idée du bonheur, d'une forme d'attente, chercher quelque chose qui était beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Mais moi, je pense que je le verrais pas d'une manière verticale, mais plutôt horizontale. Je pense que l'humanité, c'est pas chercher quelque chose qui est plus haut, le mieux. Ça serait plutôt une forme d'égalité. Voilà, c'est comme ça que je le vois. On part aussi sur une base qui est vraiment centrée sur l'Europe, sur la France aussi. Je pense pas qu'on puisse partir de la France comme base d'indice de bonheur, parce que c'est vraiment pas le pays qui est le plus heureux actuellement ou qui l'a toujours été. Mais voilà, je pense qu'il faut déconstruire cette manière de penser du bas vers le haut, mais plutôt quelque chose de plus horizontal. Voilà.
Oui, donc moi je voudrais revenir un peu sur le terme espoir. En fait, pendant des siècles, en fait, l'espoir a été surtout porté, je crois, par la religion. Et l'humain au ras du sol avait tellement peu d'espoir que le seul espoir était spirituel et religieux. Voilà. Et donc, ça fait peut-être une cinquantaine d'années, pas tout à fait, qu'on a une autre vision du monde, que nos sociétés se sont sécularisées, qu'il y a eu un abandon, en fait, dans notre société française en particulier, et dans les sociétés européennes. Il y a un abandon du religieux, ce qui pose des questions, en fait, sur en quoi met-on de l'espoir et comment définit-on, où est-ce qu'on place l'espoir. Et je pense que ça nous amène à une crise quelque part, ou à des questionnements qui sont tout à fait importants. Et l'autre point, alors, sur nous perdons notre humanité, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que, en fait, dans de nombreux cas dans l'histoire de massacres de masse, dans le mécanisme de massacre de masse, on commence par déshumaniser son adversaire. Et on commence par le réduire à l'état de choses avant de pouvoir l'exterminer, le détruire, en faire de la pâtée. Et cette chose-là, enfin, ce processus-là, il est aujourd'hui encore présent dans notre monde. Et par contre, ce qui change par rapport aux périodes historiques, c'est qu'aujourd'hui, nous en sommes témoins. Et nous y sommes confrontés, pas directement, mais nous sommes confrontés par l'information à ces processus qui se déroulent en fait sous nos yeux. Et ça pose aussi une grande question sur qu'est-ce que c'est que notre humanité et comment se présenter aux autres et comment être humain dans cette société.
Alors, je pense que, effectivement, le problème de la manière par laquelle on doit définir humanité me semble ici absolument central. J'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a déjà trois manières d'envisager l'humanité qui est la nôtre. La première, elle serait biologique, c'est-à-dire elle relèverait de la nature humaine. Qu'est-ce qu'un humain ? Voilà. Un humain, c'est un être qui a des passions, qui a des pulsions, qui est capable de jalousie, qui est capable d'envie, qui est capable d'empathie, etc. Mais en tout cas, ce qui est clair au vu de l'histoire, c'est que l'humain, c'est un être qui est fondamentalement agressif, qui est doté d'une violence fondamentale, qui crée des conflits, qui crée des dissensions, qui crée des rapports de haine qui peuvent aller extrêmement loin, comme l'histoire nous l'a montré. Donc effectivement, dans ce sens-là, rien de ce qui est inhumain est étranger à notre humanité. Voilà. Mais du coup, ça nous amène à la seconde définition de l'humanité, qui, elle, est une définition morale. C'est-à-dire, effectivement, on est tous conscients de ce que nous sommes de par notre nature, mais il y a une humanité qui, elle, tente de se définir par rapport au bien. C'est-à-dire l'humain, c'est aussi cet être qui est capable de voir, c'est-à-dire qui est capable de produire le bien, qui est capable de faire le bien, et qui, par rapport à la guerre et à la dissension, à la destruction, c'est un être qui est capable de partager, qui est capable de coopérer, et qui est capable d'amour, c'est-à-dire... par rapport à ce qui désunit l'humain et aussi celui qui est capable de créer des liens qui unissent. Et il y a une troisième définition de l'humanité qui serait de rendre humain un monde qui, par définition, ne l'est pas. Et là, ça joue par rapport, effectivement, à l'action qui est la nôtre. C'est-à-dire, être humain, qu'est-ce que c'est ? C'est être capable d'humanité. C'est-à-dire de produire de l'humanité, de faire que ce qui est bon et bien devienne effectif dans ce monde qui ne l'est pas à la base. Voilà. La nature en soi, elle est neutre, elle est ni bonne ni mauvaise, comme on l'a dit, le loup il mange la brebis, c'est ni bien ni mal, c'est. Voilà. L'humain, c'est celui qui lui a la capacité par son action de faire advenir ce qui est bien. Et donc, dans ce problème de l'espoir, ou j'ai presque envie de dire de la désespérance, comment garder espoir ? Ça veut bien dire qu'on est confronté à du désespoir. Voilà. On vit des situations qui, aujourd'hui, peuvent nous rendre désespérés. Donc oui, dans la désespérance, il y a le problème de l'impuissance. L'impuissance, c'est l'incapacité à agir. J'ai beau savoir ce qu'il faudrait faire, j'ai beau savoir ce qu'est le bien, je constate qu'il y a du mal, qu'il y a de la dissension, et je me sens impuissant à lutter contre. À partir de ce moment-là, comment on se redresse face à cette impuissance ? Je crois qu'elle est là, la question. Est-ce qu'on l'accepte ? C'est-à-dire, on a une impuissance morale, effectivement. On ne peut pas changer le monde. Il y a un cours du monde, il y a un cours qui fait que l'humain est un être destructeur et que la destruction se poursuit. Ou est-ce qu'on peut quand même, malgré tout, tenter d'agir ? La question que je me posais à vous écouter, c'est depuis quand elle est là, cette désespérance ? Voilà. Parce que ça n'a pas toujours été. Hein. Dans les années 70 ou même 80, enfin, il y avait, au contraire, il y avait une joie de vivre, il y avait la certitude que tout irait de toute façon mieux, même s'il y avait quelques difficultés. Mais malgré tout, c'était les années fastes, il y avait de la croissance économique, le chômage n'était pas encore là en masse. Donc, on sommet à tout va et on voilà donc tout allait bien quoi et ça m'intéresse particulièrement et c'est là où je me dis effectivement le rapport à l'information pour moi joue qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on se sent désespéré mais peut-être parce que on est en train de prendre conscience que le monde ne va peut-être pas dans le sens où on pensait qu'il allait. Et les guerres en Europe, ben, logiquement, c'était quand même quelque chose de terminé. Les logiques de femmes réduites à être invisibilisées totalement, mais on a eu le droit de vote, il y a eu le droit à l'avortement, enfin voilà, les femmes relevaient la tête, on parlait de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Tout d'un coup, tout semble s'effondrer à quelques endroits du monde. Alors on se disait, oui, ces endroits du monde, ils sont loin, donc à la limite, ça ne nous touche pas, c'est peut-être une parenthèse. Continuons à faire comme si tout allait bien. Et puis, on s'aperçoit que ce qui était loin, aujourd'hui, s'approche. Et que ce qui se passe là-bas, peut-être que ça va effectivement se passer ici. Donc, il me semble que dans la désespérance, il y a de l'angoisse. Il y a de l'impuissance et il y a de l'angoisse. Donc la question se pose. Oui, comment faire pour... Pour garder espoir, j'ai envie de dire garder vie, garder cet élan vital que nous donne l'espoir pour vivre dans, non pas dans la société qui est la nôtre, mais bien dans le monde qui est le nôtre. Ouais. Changement climatique, voilà. Et là, s'il ne s'arrête pas à nos frontières, on aimerait bien, comme le nuage de Tchernobyl, non, ça passe les frontières. Donc, oui. Est-ce que notre manque d'espérance ne vient pas du fait de notre impuissance et est-ce que l'impuissance ne passe pas par le sentiment que le collectif devient impuissant ? Parce que dans votre première remarque, monsieur, vous avez bien dit, tout d'un coup, qu'est-ce qui nous permet de garder l'espoir ? C'est le fait de pouvoir résister. Donc, voilà. Voilà. Je peux faire quelque chose. Oui.
J'avais demandé la parole avant. Je me demande, je crois volontiers que le monde n'est pas plus épouvantable aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes témoins de ce qui se passe, alors qu'on n'était pas aussi bien informés autrefois, et que quelque part, ça nous met tous en situation de non-assistance à personne en danger, ce qui effectivement crée un énorme malaise. Et je pense que ces mêmes technologies, les loisirs divertissants, nous incitent à être spectateurs et à ne pas agir. On a perdu le sens de l'action. Or, je pense que quand on est angoissé, on va mieux à partir du moment où on se met en branle, où on se met à agir. Et je crois aussi que ces mêmes loisirs, quand on regarde un match de foot, on a gagné, oui, le cul dans le canapé. Quand on regarde un film, on n'a pas besoin de son imagination pour se représenter les personnages, alors que quand on lit, on fait travailler son imagination. Donc on a perdu l'habitude d'agir et on a probablement diminué nos facultés d'imagination qui sont extrêmement importantes pour justement se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire.
Moi, j'ai pas vécu, il y a longtemps. Du coup, je peux pas comparer à cette époque et témoigner d'une évolution en mode c'était mieux avant, c'était mieux maintenant. Je sais pas quel était le pire. Enfin bref. Mais je voulais dire en relevant ce que vous disiez sur le fait qu'on peut garder espoir dans le collectif et dans la solidarité. C'est peut-être aussi quelque chose qui semble se perdre, et encore une fois, je ne sais pas si c'était plus là avant ou pas, mais j'ai l'impression que il y a une espèce de montée de l'individualisation, et du coup, on se sent rapidement seul avec les réseaux sociaux, blablabla. Mais il y a ce truc de, on n'a pas l'impression d'être un collectif, et donc encore moins d'avoir une puissance d'action et un impact, en fait, parce que si on est un seul humain face à des catastrophes, face au changement climatique. Face au changement climatique, d'ailleurs, il y a beaucoup de responsabilités individuelles qui font culpabiliser donc, les individus. Et en fait, à une échelle individuelle, on n'a pas énormément d'action. Et c'est pour ça que ça peut-être nous faire encore plus angoisser, nous faire encore plus sentir impuissants. Alors que dans le collectif, on trouve une certaine, un certain espoir et un certain espoir de changement ou en tout cas d'action qu'on pourrait faire, qui peut-être est diminué ou en tout cas est restreint avec certaines montées de l'individualisation.
Mmh. Ouais.
Oui. Je voudrais réagir un peu par rapport aussi au flux d'informations dont nous sommes submergés en permanence. Je pense aux réseaux sociaux, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça permet de manipuler les opinions, les populations, je pense aux jeunes aussi, parce que moi je les lis moins, donc je suis moins manipulable. Mais je pense qu'il y a une volonté de nos dirigeants, quels qu'ils soient, hein, que ce soit droite, gauche, au milieu, en face, en dessous, à droite, religieuse, pas religieuse, de manipuler les gens, parce que plus vous avez affaire à des boutons de panurge, plus vous en faites ce que vous voulez. Et la situation des jeunes, je pense qu'aujourd'hui, pour garder de l'espoir, c'est réagir. Et moi, ce qui me choque toujours, en France et dans d'autres pays, quand on regarde les jeunes qui vont voter, on n'en voit pas. Et la première réaction qu'on a dans un citoyen libre, c'est de donner son avis. Et ça, on peut commencer par le faire. On pourrait changer un peu les choses, parce que là, on subit, on regarde. Comme disait madame, on s'amuse, on est passif, on a des points, on a le pouce qui lève, on fait des likes, c'est super, on a l'impression de faire quelque chose, mais ça ne sert à rien. Et j'avais un conseiller qui me disait, plutôt que d'aller en Chine pour aider le train à se remettre sur les rails, on va en bas de la maison, on regarde au coin de chez soi et on aide le clodo à 20 mètres. On a agi. Et on fait bouger le monde un petit peu. Je pense qu'on peut garder un peu d'espoir, je pense, par l'action et en se bouchant les oreilles par rapport à l'intoxication qui est une manipulation de masse, comme disait le monsieur, par l'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Je suis informaticien depuis 50 ans. C'est un humain qui fait l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une machine qui se fait toute seule. N'oubliez jamais ça. Vous coupez le secteur, il n'y a plus d'intelligence. Hein. C'est ça. Mais c'est un homme qui le fait, ou un groupe d'hommes. Et quelle idée ont-ils quand ils font un outil d'intelligence artificielle ? Il faut remonter jusque-là pour se poser les bonnes questions. Il y avait une émission qui disait au début, il y a très longtemps à la radio, il faut être sceptique sur tout et incrédule sur le reste. Alors, ce n'est pas de la zézé, je ne sais plus comment on dit, mais c'est être prudent quand on vous donne une information, sachant que sur les réseaux sociaux, vous lancez une information et il y a un flot de pollution qui se répand aussitôt, tout le monde crie dans le même sens, en ayant l'impression de faire quelque chose. Ça me surprend toujours de voir comment on peut faire une réaction en chaîne. C'est ça une réaction atomique. Vous lancez un atome et tout pète. Les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Et donc, c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Et ça fait beaucoup de mal, je pense, à la situation actuelle, parce qu'on a peur de tout. On le sait. Un train déraille en Chine, on est au courant. Un gars qui tue sa femme en Inde, on le sait. On est un petit 8 milliardième d'individus sur Terre. Il faut qu'on reste modeste et qu'on essaye d'agir, je ne sais pas dire, à notre échelle. Et peut-être que quand on se couchera le soir, on aura eu l'impression de faire quelque chose. Et ça, pour moi, ça donne de l'espoir. Parce que le monde, d'un seul coup, c'est gros. Hein.
Étouffant.
il me semble que j'aimerais personnellement mettre espoir au pluriel. Parce que selon la personne qui porte l'espoir, ce n'est pas forcément le même. Si on regarde un peu, on a eu des aspects historiques un peu. Je pense que les années 70 qu'on évoque, hein, les 30 glorieuses, c'est, matériellement, ce n'était pas des années de confort. Hein. Je crois qu'il faut réaliser que quand même, les progrès techniques font qu'on peut penser qu'aujourd'hui, la vie est plus confortable. Par contre, socialement, il me semble qu'effectivement, on a perdu quelque chose. C'est effectivement l'espoir que si pour le moment, ce n'est pas terrible, ça va être mieux pour nous ou pour les générations à venir. Et dans les discours actuels, on ne l'entend plus. Or, pour moi, personnellement, la différence essentielle, me semble-t-il, en tout cas, une différence très importante, c'est la notion d'accaparement par quelques-uns au détriment de l'autre. Sachant que ceux qui accaparent savent très bien que c'est au détriment de l'autre. L'espoir de celui qui a, c'est d'avoir encore plus. L'espoir de celui qui n'a pas, c'est de savoir qu'il va peut-être pouvoir manger et se mettre à l'abri. Et fondamentalement, apparemment, la société, le fonctionnement social actuel permet à ceux qui accaparent d'accaparer encore plus et à ceux qui n'ont pas d'avoir encore moins. Comment, dans cette situation, effectivement, un espoir collectif peut-il se développer et, j'ai envie de dire, accaparer les accapareurs ?
On se rend compte que ce monde est extrêmement complexe et que toutes nos réactions jusqu'à présent, c'est de se positionner d'une façon ou d'une autre, avec des mots un peu savants, qu'on ne comprend pas toujours. Donc il y a une notion peut-être qui est importante, il faut qu'elle représente à l'esprit, c'est l'esprit de discernement. Être capable de comprendre, donc augmenter ses connaissances. Discernement, ça veut dire, au plan personnel et individuel, c'est la relation avec l'autre, c'est-à-dire essayer d'affiner la connaissance de l'autre, le rapport à l'autre, l'écoute de l'autre, le silence devant l'autre. Donc, au quotidien, dans la vie la plus simple, c'est essayer déjà de dépassionner notre propre réactivité, qui peut être plutôt de la réaction, vis-à-vis de l'événement qui survient tous les jours. Donc, c'est là aussi qu'on peut exercer nos efforts de discernement et essayer de mieux comprendre le monde autour de nous, déjà à notre petite échelle.
Je trouve que beaucoup de personnes sont bien pessimistes quand même, parce que l'humanité, c'est l'espoir. Il faut quand même espérer en l'humanité. Et si une personne dit ça, 10 personnes, 10 millions de personnes le disent, et bien peut-être qu'un jour, ça fera son petit effet, et que même si on paraît candide de dire « il faut espérer en l'humanité », ben peut-être qu'un jour, dans 1000 ans, ou même dans 10 000 ans, eh ben peut-être qu'on va peut-être y arriver. Donc gardons espoir quand même.
Moi, je pensais à un très beau texte de Stefan Zweig, qui n'est pas très connu, qui s'appelle « La désintoxication du monde », qu'il a écrit justement dans les heures les plus sombres, donc c'était en 1934, quand il a déjà été exilé à Londres, Et là, il disait justement que déjà les informations, elles étaient complètement fausses et complètement fausses. Et là, il avait réfléchi à l'Europe qu'il voulait de demain. Et il voulait donc un programme Erasmus, il voulait l'université européenne. Il avait lui, il l'a pas vu, mais toutes ces idées-là, ils ont pu naître après la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que le monde des idées, simplement de réfléchir à ce qu'on voudrait vraiment, et le communiquer, la communication, le transmettre, peut effectivement le formuler, déjà la bonne formulation, le verbe, ça peut déjà savoir bien formuler certaines idées, ça peut déjà faire beaucoup de choses, et puis bien le communiquer, quoi. Donc,
Oui, monsieur.
J'ai pour habitude de voir les choses au niveau micro et au niveau macro. Alors, lorsque je dénonce la déshumanisation, est-ce qu'elle n'est pas en moi, cette déshumanisation? Et chaque jour, est-ce que je peux m'interroger sur mes attitudes, mes comportements, ce que j'ai pu mettre dans mes relations? Oui, pour avoir conscience de ce qui se joue en moi, car je suis le reflet du voisin, je suis le reflet du monde. Voilà.
Mais pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, là, en fait, comment dire, dans les années 70, 80, 90, enfin, peut-être pas 90, enfin, on avait on était face à des projets politiques et des projets de société qui étaient des projets plutôt redistributifs, plutôt égalitaires, plutôt, qui étaient démocrates, qui promouvaient la démocratie. Et ces projets étaient quand même étaient très positifs. Et depuis une vingtaine, trentaine d'années, en fait, on a un mouvement organisé conservateur très puissant qui a perverti en fait de nombreuses valeurs et de nombreuses idées, et qui, à mon sens, en fait, aboutit aujourd'hui dans la prise de pouvoir d'un repris de justice qui s'appelle Monsieur Trump aux États-Unis. Et qui a l'intention de mettre en œuvre un programme extrêmement répressif, dévastateur. Et alors là, il y a effectivement une cause de désespérance. Mais là, en fait, dans cette affaire-là, il est fondamental d'arriver à proposer des choses, à proposer des idées, à proposer des programmes. Et depuis, depuis 15 ans en France, en fait, on est dans le désert, hein, à mon sens.
Eh oui, on est dans le désert.
Effectivement.
Il me semble très important de souligner que le moment que nous vivons est un moment d'espoir. Parce que un lieu où n'importe qui peut dire n'importe quoi et être écouté, je veux dire, c'est quand même extraordinaire, non ?
Oui, je voulais juste passer la soirée sans souligner pour moi mon expérience personnelle, c'est en fait de nourrir un projet, si possible un projet en lien avec des valeurs et partagé par quelques autres personnes. Je trouve que ça donne vraiment un sens à la vie. Ça peut être une bonne solution d'entrer en réaction, comme vous disiez tout à l'heure, pour mettre fin à l'angoisse, passer dans l'action. C'est une énergie qui,
enfin structurer cette énergie pour en faire quelque chose, quoi. Voilà, un projet qui donne un sens. Merci.
Oui, d'ailleurs, à propos de la différence entre la réactivité et l'action, sur justement le fait que, avec ces bombardements d'informations en tout genre, les gens ont tendance de plus en plus violemment à réagir et non plus à agir. C'est-à-dire qu'une action soit construite, élaborée, qu'il y ait des plans, une concertation, mais juste à brûle-pourpoint, une information, une réaction. Et des effets en chaîne comme ça, ça peut être au niveau tout à fait de la cellule familiale à la société, comme ça peut être du pays par rapport au monde. On a cette espèce d'entrechoc où il n'y a pas l'espace, il y a de moins en moins d'espace pour construire l'action. En tous les cas, il faut être rapide, bien équipé ou se rassembler. Mais voilà, c'est juste pendant qu'on faire attention à la réactivité plutôt qu'à l'action qui, elle, peut être construite.
Si je peux rajouter un mot, je partage absolument ce qui vient d'être dit. Mais il me semble que justement, ça nous met beaucoup plus du côté de l'émotion au détriment de la raison. On perd un petit peu l'esprit des Lumières.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de constante de temps? C'est-à-dire que une année sur l'autre, la récolte du vin n'est pas toujours aussi bonne. Est-ce qu'il ne faut pas regarder avec un temps long? Si je regarde avec l'Allemagne, par exemple, on a eu 3 guerres ou même plus, mais depuis 80 ans, on est en paix avec l'Allemagne. L'Europe a quand même émergé. Elle est petite, elle est à développer. Mais c'est un début, c'est-à-dire qu'il faut prendre un temps beaucoup plus long pour voir s'il y a progrès ou non, me semble-t-il.
En fait, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est une échelle de temps et, en fait, comme on le voit, c'est aussi une échelle d'espace. Parce qu'il y a un terme qui a émergé pendant les discussions. On est passé de parler d'un monde plus ou moins humain à un monde ou une société plus ou moins individualiste. Et alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de si on était vraiment moins individualiste avant. Je n'ai pas connu les années 70 non plus. Mais il y a peut-être effectivement une solution à trouver, enfin une piste à chercher dans beaucoup de situations, un certain compromis dans notre capacité d'attention vis-à-vis des autres. On ne peut pas être dans un individualisme à 100%, se refermer sur soi, ça n'est pas viable, mais le fait que là on ait accès à de l'information, en fait notre capacité d'attention, notre capacité de compassion, d'empathie, elle se retrouve étirée. Parce qu'on est sensible, on est des êtres sensibles, on l'a rappelé dans une des définitions de l'humanité. Et donc en étant sensible à trop, effectivement, on est dépassé. Il y a une autre citation un peu crue qui me vient de la culture populaire qui dit « Commence à te soucier de qui mérite quoi et tu finiras comme le plus triste des cadavres ». Et donc il y a peut-être quelque chose à rechercher dans cette idée de « il faut se soucier des autres, il faut, parce qu'on a cette capacité d'agir, on a parlé d'agir plutôt que pour le lointain, d'agir à proximité. Ce qui est sans doute une possibilité, donc d'avoir un compromis dans notre capacité d'action, mais dans ce cas, ça pose aussi d'autres questions sur qu'est-ce qui justifie qu'on aide telle ou telle personne, qu'on accorde notre attention à telle ou telle situation. Donc là, peut-être, on a parlé un peu de morale, il y a cette définition nécessaire de nos exigences et nos critères qui vont varier en fonction des individus et qui peuvent poser une difficulté sur la façon dont on réagit. Donc, en résumé, je dirais, il faut qu'on reste raisonnable, il faut qu'on soit conscient de l'espoir que l'on peut avoir, sans être déraisonnable dans cet espoir-là, justement.
Une forme de modération de l'espoir. Ouais. Ce qu'on a peut-être appelé discernement ou lucidité tout à l'heure. Non. Peut-être passer à la conclusion, alors, si vous voulez plus intervenir. Le sujet est difficile. Alors, allons-y.
Oui, j'ai encore un espoir, là.
Oui. Bon,
c'est de Bachar el-Assad est parti.
Ouais.
Voilà. Mon espoir, c'est de voir Poutine devant le tribunal. Ah oui.
Eh oui.
Ouais. Voilà. Et puis, alors, Xi Jinping, ça, je sais pas, parce que je serai plus là. Mais d'ici 15 ans, Poutine sera devant le tribunal international. Voilà. Donc, il faut garder espoir.
Ouais.
Mais sur le long terme.
Ouais, sur le long terme. Oui, je débuterai cette conclusion en disant c'est une question difficile. Et pourquoi c'est une question difficile ? Parce que je crois qu'elle nous met face à une réalité qui est qu'on est dans une période de transition. Et que, comme toujours, dans les périodes de transition, tout est ébranlé. C'est-à-dire, la continuité est rompue. Ce qu'on croyait acquis ne l'est peut-être pas tant que ça. Et le futur qui s'offre à nous est un futur qui, du coup, est assez informe, où les quelques formes que ça prend, ce sont des formes qui peuvent effectivement nous interroger, voire nous terroriser dans certains cas. Et parce que ça prend forme, ça peut effectivement générer en nous un sentiment d'impuissance. Alors face à l'impuissance, le repli sur l'individuel semble la bonne solution. Le bonheur, je peux aller le chercher, je peux aller le chercher dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui. Effectivement, je peux être heureux avec mes proches, avec ceux que j'aime, dans la pratique de ma profession, avec mes amis. Mais au vu des informations que je reçois, ça génère en moi une forme de culpabilisation. C'est-à-dire, effectivement, d'autres sont en train de mourir dans le monde, d'autres sont en train de souffrir, d'autres sont en train d'être envahis, massacrés, et moi, je bois ma bouteille de vin tranquillement autour d'un foie gras et du saumon fumé. Bon, ça peut quand même interroger ma dimension morale. Qu'est-ce que je fais ? Et je ne fais pas grand-chose. D'où le fait que, effectivement, une forme de désespoir peut m'envahir. Dans quel monde on vit ? Quelle va être ma vie ? Qui suis-je ? Voilà, ne serait-ce qu'en termes de réalité morale. De façon peut-être plus générale, y a-t-il un sens à l'existence ? Et c'est là où tout d'un coup je me dis, il faut peut-être revenir sur le concept d'espérance. Parce que, voilà, l'espérance, c'est quoi à la base ? Comme on l'a dit, c'est un concept religieux. C'est le concept qui émerge au moment où l'humanité apprend qu'elle est corrompue, qu'elle est définitivement corrompue. Nous sommes des êtres mauvais par nature. Il y a eu le péché originel. Non seulement il y a eu le péché originel, nous sommes pécheurs. Ah, totalement, ouais, dans le vocable, hein. Oui, oui. Et en prime, ça se transmet. C'est-à-dire, on est tous pécheurs. Et tout d'un coup, l'espérance, qu'est-ce que c'est ?
C'est au milieu de cette dévastation totale la grâce qui arrive. Et la grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est de la lumière. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, l'espérance, c'est ce qui advient au plus profond de l'adversité. Il n'y a pas besoin d'espérance quand tout va bien. L'espérance, on en a besoin quand tout va mal. C'est bien parce que tout d'un coup, on a l'impression qu'il n'y a plus de voie possible, qu'on est dans une impasse totale, qu'on a besoin d'espérance, qu'on a besoin de cette lumière qui tout d'un coup va nous guider. Et cette lumière, elle ne nous vient pas de nous. Elle vient d'ailleurs. Elle vient d'un modèle. Il y a des grands modèles humains, des gens qui se sont battus, Gandhi, Nelson Mandela. Il y a des grands noms qui sont portés et je pense à Voltaire. On a parlé de l'esprit des Lumières. Je pense à un qui est un petit peu moins brillant, mais à quel point profond, Emmanuel Kant. On a des écrits qui nous ouvrent vers un avenir. Et qui nous ouvrent vers un avenir, j'ai envie de dire meilleur, parce que lumineux, l'espoir, c'est ça. C'est tout d'un coup ce qui, au fond des ténèbres, nous donne de la lumière. Et je reviendrai sur ce lien entre microcosme et macrocosme. Quand tout d'un coup, le macrocosme me paraît à ce point obscur, sombre, « dark », disent les Anglais. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a une pesanteur aussi, il y a une lourdeur. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous attire vers le fond, qui va nous enliser, véritablement, voire nous détruire. Tout d'un coup, il y a cette lumière qui fait que quelque chose en nous se redresse. Et cette lumière, c'est cette espérance que l'on peut trouver dans l'être de l'autre. Tout d'un coup, je rencontre quelqu'un qui me paraît lumineux par un discours, par un sourire, par une croyance dans une action collective commune, par une donation de soi dans un bénévolat. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui me redonne de l'énergie. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'effectivement, on est vivant. Qu'effectivement, malgré tout, il faut y croire. Et là, je pense à quelqu'un comme Jean Moulin. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu cet espoir incroyable dans Jean Moulin, qu'effectivement Hitler n'y arriverait pas, d'accord, qu'il terminerait au tribunal international, comme d'autres y termineront, s'il n'y a pas cet espoir-là, qui peut des fois être fou, c'est-à-dire ça repose sur quoi ? Objectivement, des fois sur rien. Si ce n'est dans la croyance fondamentale dans notre propre force et dans le fait que l'on peut être soi-même une lumière pour les autres. Et que cette lumière, c'est un devoir. Et que des fois, il ne faut pas s'interroger. C'est-à-dire, effectivement, tout nous porte à désespérer. Et c'est bien parce que tout nous porte à désespérer qu'il faut être soi-même le chemin de l'espérance. Voilà. Et c'est là ce lien, je crois, entre le microcosme et le macrocosme. Très souvent, c'est les événements extérieurs qui viennent nous affecter intérieurement et réduire notre énergie. Mais je crois effectivement que si soi-même, on développe cette attitude-là, alors tout d'un coup, c'est ce qu'on disait, on trouve qu'on n'est pas seul dans cette espérance. On n'est pas seul dans cette volonté de croire en la nature humaine et qu'on peut changer les choses et qu'on peut faire que l'union, la paix, moi je dirais l'amour, hein, voilà, l'amour prévale sur la dissension, les conflits, les jalousies, etc. Et c'est là où un mouvement politique peut se créer, parce que je pense que tout est politique dans cette dimension-là, parce que c'est la construction du commun. Et Léon Bourgeois nous a déjà donné la voix. Léon Bourgeois, homme oublié, homme politique français, soyons fiers. Voilà. Homme politique français qui avait créé le mouvement du solidarisme pour répondre à l'individualisme. Il y a le solidarisme qui se pense sur cette logique de l'égalité. Je rajouterais juste, l'espérance se fonde dans le respect. Voilà, véritablement, le respect des uns des autres, déjà de soi et les uns des autres. Telle est la lumière dont on a tellement besoin. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, nous vous proposons de partager un petit moment de convivialité. Voilà. Entre nous, entre nous.